découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Donc, dans les dernières catéchèses, nous avons essayé de préciser ce que devait être la mission spécifique des fidèles laïcs dans la vie sociale et politique. Maintenant, je voudrais soumettre à la réflexion de nos auditeurs un certain nombre d'observations ou de précisions qui me semblent très importantes à ce stade de notre catéchèse. D'abord, la première précision importante, c'est que la doctrine sociale de l'Église doit être orientée vers l'action. En effet, l'enseignement de l'Église concernant la mission des chrétiens dans la cité confirme, s'il en était besoin, que la doctrine sociale de l'Église est essentiellement orientée vers l'action. C'est l'occasion de rappeler ici la véritable nature de la doctrine sociale de l'Église et la définition d'ailleurs qu'en donne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2423. Je cite « La doctrine sociale de l'Église propose des principes de réflexion, elle dégage des critères de jugement, elle donne des orientations pour l'action. » Voyez, il s'agit d'abord de s'enraciner dans des grands principes qui permettent de dégager des critères de jugement, d'analyse de la situation sociale et politique dans laquelle nous nous trouvons présentement et d'en tirer des orientations pour l'action. Je dis bien des orientations pour l'action et non pas des axiomes dogmatiques ou des impératifs catégoriques. Certes, la doctrine sociale de l'Église est, comme son nom l'indique, une doctrine, c'est-à-dire essentiellement un enseignement, et je dirais même un enseignement qui pourrait être théorique, que l'Église propose aux fidèles laïcs, ainsi d'ailleurs qu'à tous les hommes de bonne volonté. Nous sommes habitués, en effet, à lire le libellé des encycliques sociales depuis bien longtemps, et en particulier Jean XXIII, qui est peut-être le premier à avoir appliqué... utiliser cette formule, les encycliques sociales sont en général adressées non seulement au monde catholique, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux consacrés, aux fidèles laïcs, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté. Et la dernière encyclique sociale en date, c'est Tutti Fratelli, n'est-ce pas, du pape François, qui précise dans l'introduction que s'il part de ses convictions chrétiennes et les plus fondamentales, il entend bien s'adresser à tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur culture et quelle que soit leur religion. Donc, c'est une doctrine, certes, que l'Église propose à tous les fidèles laïcs et aussi à tous les hommes de bonne volonté, afin de les éclairer dans l'accomplissement de leurs responsabilités sociales. Il est bien entendu nécessaire de l'étudier pour la comprendre ou l'assimiler. Donc, c'est une connaissance. On peut légitimement en admirer la pertinence, la continuité, la cohérence. Vous voyez bien que quand on lit une encyclique sociale, quel que soit le pape, il se réfère toujours à l'enseignement qui précède. Et l'encyclique Tutti Fratelli, que nous venons de recevoir du pape François, ne déroge pas à la règle. Il s'appuie sur le compendium de doctrine sociale de l'Église, du Conseil pontifical Justice et Paix. Il s'appuie sur Benoît XVI, qui le cite abondamment, en particulier dans son encyclique Caritas in Veritate. Il s'applique évidemment sur Saint Jean-Paul II, en particulier à travers son encyclique Centesimus Annus. Néanmoins, la doctrine sociale de l'Église n'est pas faite pour être contemplée, mais pour être diffusée, et plus encore pour être appliquée. Les laïcs ayant précisément pour tâche de la mettre en œuvre, comme nous l'avons déjà dit précédemment. C'est en particulier ce que tenait à souligner le pape Saint Jean XXIII dans l'encyclique Mater et Magistra du 15 mai 1961, que nous avons déjà eu l'occasion de citer, lorsqu'il écrivait, je cite, « Le magistère de l'Église, avec la collaboration des prêtres et de laïcs, a mis au point une doctrine sociale. Il est cependant indispensable aujourd'hui, plus que jamais, que cette doctrine soit connue, assimilée, traduite dans la réalité sociale, sous les formes et dans la mesure que permettent ou réclament les situations diverses. À cette diffusion, Nos fils du laïcat peuvent contribuer beaucoup par leur application à connaître la doctrine, par leur zèle à la faire comprendre aux autres, et en accomplissant à sa lumière leurs activités d'ordre temporel. Vous voyez, il y a une responsabilité des fidèles laïcs qui est non seulement dans la formation, et donc dans la connaissance de cette doctrine sociale de l'Église, ça, tous les papes le répètent sans cesse, et le pape François en dernier, par le zèle à la diffuser, à la faire connaître, parce qu'on se rend bien compte que cette doctrine sociale de l'Église est très ignorée, très méconnue, y compris dans le monde catholique, et évidemment en l'accomplissant à sa lumière, en accomplissant leurs activités d'ordre temporel, eux qui sont, encore une fois, par leur caractère séculier, c'est-à-dire d'immersion dans la réalité temporelle, eh bien chargés d'animer chrétiennement ces réalités temporelles à la lumière de la foi et de l'enseignement de l'Église. C'est également ce qu'entend rappeler le pape Jean-Paul II lorsqu'il proclame dans l'exhortation apostolique Christi Fideles Laici du 30 décembre 1988 qu'il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. Je cite brièvement le troisième paragraphe de ce document. Des situations nouvelles dans l'Église comme dans le monde, dans les réalités sociales, économiques, politiques et culturelles, exigent aujourd'hui de façon toute particulière l'action des fidèles laïcs. S'il a toujours été admissible de s'en désintéresser, présentement, c'est plus répréhensible que jamais. Il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. Fin de citation. Ce qui nous amène peut-être à poser cet autre principe important, ou se poser en tout cas une question. Qu'est-ce qui est le plus important, de l'action ou de la prière ? Y a-t-il là un dilemme ? Non, bien sûr qu'il y a un faux dilemme. Les fidèles laïcs n'ont en effet nullement à faire un choix entre l'action, y compris l'action sociale et politique, qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, et la prière. La prière est bien entendu pour tout chrétien la toute première forme de l'action, pourrait-on dire. Celle qui permet de puiser en Dieu les grâces qui nous sont nécessaires. Mais prier en s'abstenant d'agir, c'est une forme de quiétisme qui consiste à fuir ses responsabilités et revient en définitive à tenter Dieu. Je me souviens que dans le cinquième chapitre de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, évangéliser en esprit, eh bien le pape François précise que la prière est très importante, mais il pourrait y avoir une espèce de retrait du monde et de refus de prendre ses responsabilités que de s'enfermer dans une prière un peu mystique, un peu douillette. À l'inverse, agir et ne compter que sur ses propres forces, en négligeant la prière, c'est perdre de vue les enseignements du Christ qui nous rappelle que nous sommes des serviteurs inutiles et qui nous dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il s'agit d'une tentation qui ne peut avoir d'autre résultat qu'une forme d'agitation désordonnée ou d'activisme stérile. Le pape François parle même de martalisme en référence à l'évangile de Marthe et de Marie. On prête d'ailleurs à saint Ignace de Loyola, comme vous le savez, cette célèbre maxime « Il faut agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu, et je dirais même prier parce que tout dépend de Dieu. Tel doit être en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances l'état d'esprit qui doit inspirer le laïc catholique. » Marthe Robin, la stigmatisée de Châteauneuf-de-Galore, disait quant à elle que « l'action politique déborde de la prière ». De fait, bien des combats dans lesquels les laïcs doivent aujourd'hui s'engager, le combat pour la vie, pour la famille, pour la dignité de toute personne humaine, pour la sauvegarde de la création, sans avoir ni le droit ni la possibilité de déserter ou de se dérober, ne sont pas simplement politiques, mais bel et bien spirituels, ce qui signifie qu'il faut s'y engager avec des armes spirituelles, la charité envers les personnes dont nous ne devons jamais nous départir, et la prière. Les armes paraissent bien inégales et les luttes que nous devons mener semblent bien souvent perdues d'avance ou vouées à l'échec, mais le récit biblique du combat victorieux de David contre Goliath, en s'appuyant sur le nom du Seigneur, nous rappelle à quel point nous devons néanmoins mettre toute notre confiance en Dieu et en lui seul. En nom Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire, comme disait Sainte Jeanne d'Arc à Poitiers lors de son examen, voulu par Charles VII, après leur rencontre à Chinon du 6 mars 1429.